Allez, il est 17h30 en temps universel. 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Pour la première fois, un ancien président américain comparé devant la justice pénale. Le procès de Donald Trump s'est ouvert ce lundi à New York pour paiement dissimulé à une ancienne star de film X. Alors c'est une première. Et puis que dire du fait que cet ex-président est en campagne et il pourrait bien être réélu en novembre prochain malgré les démêlés judiciaires, malgré tous les signaux envoyés. Notre question ce soir, est-ce que le monde doit se préparer au retour de Donald Trump ? Comment résister sans s'ingérer ? Voilà nos questions. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour y répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la politique américaine. Face à vous, Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien diplomate, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne et puis auteur du livre Diplomatie française. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Pierre Bourgois.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, auteur du livre « Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard ». Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, d'ordre général, le sentiment qui vous anime, comment est-ce que vous observez, je vais commencer avec vous Jérôme Viala-Godefroy, cette campagne aux États-Unis, ce duel qui était annoncé quasiment depuis la présidentielle précédente entre Joe Biden et Donald Trump?
Alors c'est une campagne quand même totalement inédite. D'abord on commence la campagne très très tôt. Et puis, il y a ces affaires judiciaires qui, vraiment, sont quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et d'ailleurs, même le fait qu'on ait un président qui se présente alors qu'il a déjà été président, ça s'est quasiment jamais vu. Il n'y a eu qu'un président qui a réussi à faire ça à la fin du 19e. Donc, on est quand même dans des choses très inédites. Et puis, il y a une radicalisation de Donald Trump dans ses propos. Et on voit aussi que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des Républicains, une sorte de réalignement qui est en train de se produire. Et on en reparlera sans doute, mais justement également au niveau de la politique étrangère, on le voit à l'intérieur du Parti républicain, une division à l'intérieur du parti, y compris chez les électeurs d'ailleurs.
Une radicalisation du discours de Donald Trump, il est plus radical que lors de la campagne qui l'a mené à la victoire.
Oui, il est plus radical sur des questions, sur les attaques, le type d'attaque qu'il peut faire. Il est plus radical sur une vision qui est quand même proche d'un nationalisme chrétien, par exemple, blanc. Et il va plus loin qu'en 2016 et même qu'en 2020.
Vous êtes d'accord, Michel Duclos ?
Je suis d'accord. En même temps, il y a quelque chose de vraiment shakespearien parce que c'est quand même un animal blessé. Alors entendons-nous bien, je crois que malheureusement il peut survivre et il peut très bien gagner, hein, bien entendu. Mais maintenant, il est, à cause de ses ennemis judiciaires notamment, il est vraiment dans ses derniers retranchements. Donc c'est une question de survie pour lui. Ce qui me frappe aussi, c'est que, vous savez, on utilise parfois l'expression « après moi le déluge ». Avec Trump, c'est « avant moi le déluge ». Par exemple, il n'hésite pas à bloquer le paquet d'aide que le Congrès doit voter pour l'Ukraine avant même d'être élu. Et là, il sabote la planche de l'actuel titulaire de la Maison-Blanche. Il joue contre son pays de façon qui peut-être en Europe rappelait des choses, mais aux États-Unis, il me semble, c'est quand même assez exceptionnel.
Dernier tour de table, Pierre Bourgois, enfin dernier membre pour ce premier tour de table concernant le sentiment général sur la campagne. Le mot qui me vient, ce mot radicalisation, est-ce que vous l'observez vous aussi dans les discours de Donald Trump sur cette campagne actuelle ?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'on peut résumer par la phrase, en fait, on ne change pas les recettes qui gagnent, parce qu'en fait...
On fait beaucoup d'expressions ce soir.
C'est ça, c'est qu'en fait, Donald Trump en 2016 était déjà sur cette logique-là, une logique claire d'affrontement direct de ses adversaires, d'affrontement direct d'un système qu'il dénonce. Donc en fait, il reprend la même logique avec, entre-temps, les années qui ont passé. Lui-même, une forme de popularité qu'il a entretenue, qui s'est aussi affaiblie chez des électeurs qui étaient plus modérés, qui avait accepté de voter pour lui en 2016, et des électeurs qu'il a peur de perdre, qu'il avait peut-être perdu en 2020 et qu'il a peur de perdre à nouveau. Donc en fait, il radicalise son discours en fait, pour revenir aux recettes qui ont fonctionné en 2016, qui n'avaient pas fonctionné en 2020, mais qui avaient fonctionné en 2016. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est aussi une question de survie. Donald Trump a 77 ans. C'est l'élection qu'il attend, hein, clairement. Et aussi, je dirais qu'il est galvanisé par une forme d'alignement idéologique au sein de son camp, au sein de son parti, qui n'était pas forcément le cas en 2016. En 2016, vous aviez encore des républicains qui étaient relativement sur une autre ligne. Alors, il restait quelques néoconservateurs ou quelques autre ligne idéologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que le parti républicain est complètement à la botte de Donald Trump, en fait. Et donc, cet alignement idéologique le galvanise.
Alors, Jérôme Vialla-Godefroy, vous avez évoqué une division au sein du Parti républicain, mais est-ce qu'il est plus légitime aujourd'hui, Donald Trump, qu'en 2016 au sein de ce Parti républicain ?
C'est intéressant la question de légitimité, parce que je pense qu'un élément qui est quand même très différent de 2016, c'est qu'on a eu le 6 janvier depuis l'attaque du Capitole, et qu'on a, à l'heure actuelle, une grande majorité, plus des deux tiers des républicains, des électeurs républicains qui pensent que l'élection leur a été volée. Et on a quand même un ancien président candidat qui n'a jamais accepté le principe
Biden.
Démocratique qui consiste à passer le pouvoir à celui qui a été élu démocratiquement. Donc là, et c'est pour ça qu'on est dans cette radicalité aussi. On l'est au niveau aussi des électeurs. Et c'est ça. Alors, effectivement, la question va être sur les électeurs qui sont indépendants ou qui peuvent faire les élections. Mais pour ce qui est de la base de Donald Trump, elle s'est radicalisée, effectivement.
Oui, alors, pour vrai, qui de l'œuf ou qui de la poule, pour poursuivre sur l'expression, est-ce que c'est la base qui s'est radicalisée parce que le discours de Trump s'est radicalisé ou est-ce que c'est le contraire ?
Je pense qu'il a su aller dans quelque chose qui était latent. Et il y avait une tendance quand même assez radicale. Alors, c'est souvent sur des questions notamment religieuses et raciales aux États-Unis qui sont quand même très importantes et qui ont amené beaucoup de radicalité. C'est des choses qui ne sont pas souvent bien comprises depuis la France parce qu'on n'a pas les mêmes questions, les mêmes références.
Sauf sur l'avortement.
Michel Duclos.
Voilà. Sauf sur l'avortement, parce qu'effectivement, Trump, c'est une sorte de médium. Donc, il exprime... le sentiment de rage qui existe dans toute une partie de la population. Et par ailleurs, il regrette, au fond, de ne pas avoir été assez lui-même pendant son premier mandat. J'en sais rien, mais il me semble comme ça, psychologiquement, il doit se dire que s'il a perdu, c'est parce qu'il a écouté ce qu'on appelait à l'époque les adultes dans la pièce. Et que là, maintenant, il est décidé d'être complètement en phase avec son électorat dans ce qu'il a de plus radical, et complètement lui-même. C'est en cela qu'il est très dangereux. Alors effectivement, il y a des nuances. Il y a le fait que sur l'avortement, là, il comprend quand même mieux que les leaders du Parti républicain, on va dire, que c'est quelque chose qui risque de ne pas passer complètement. Et puis, j'imagine aussi qu'il doit être sensible à l'aspect, s'il perd ses procès sur le fric, ça, c'est quand même pas très bien vu dans l'Amérique profonde, quoi. C'est-à-dire, on peut passer l'éponge sur beaucoup de choses, sur beaucoup de ses péchés, les histoires de femmes, etc. Ça, c'est secondaire. En revanche, d'être un perdant en matière d'argent, je crois que là, il aura un peu de mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles... il me semble, ses opposants essayent de le coincer là-dessus.
Qui plus est pour un milliardaire. Est-ce que Donald Trump représente le plus grand danger pour le monde en 2024 ? C'était le titre du The Economist à la mi-novembre 2023. Vous avez dit qu'il est encore plus dangereux aujourd'hui, entre guillemets, qu'en 2016.
Le plus grand danger, bon, pour moi, ce serait quand même Poutine, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il vient en numéro 2 sur la liste.
Alors, notre question, c'est est-ce que le monde doit se préparer au retour de Donald Trump ? Donc, on a bien compris qu'aujourd'hui, la radicalité de Donald Trump, elle est encore plus importante qu'en 2016. Est-ce que, Jérôme Vialla-Godefroy, face à ça, vous avez le sentiment que le monde a conscience, ou en tout cas donne le sentiment d'être conscient de cette radicalité, de ce danger, pour reprendre les mots de Michel Duclos, de Donald Trump version 2024.
Alors je pense que c'est en partie au niveau des politiques. On voit quand même qu'au niveau de l'Europe, il se passe des choses. Je ne suis pas vraiment spécialiste sur l'Europe, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui semblent avancer. Maintenant, au niveau des médias en général et de la population en général, je ne pense pas qu'il y ait vraiment la conscience de ce qui est en train de se passer. Ce qui est plausible, ou en tout cas de ce qui pourrait arriver, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2016, il avait des gens qui l'ont un petit peu empêché de faire ce qu'il voulait. Or là, il y a vraiment un plan notamment par la Heritage Foundation, qui est un lobby très très puissant aux États-Unis, un plan qui s'appelle Projet 2025, et qui consiste à avoir les moyens de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire le remplacement notamment des fonctionnaires par des gens qui seront pris sur leur loyauté, et de transformer des postes qui seraient des postes de fonctionnaires en postes politiques. Et là, ils sont en train d'interviewer des gens avec des profils très particuliers, et ils voudraient remplacer à peu près 50 000 fonctionnaires. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir que Trump puisse faire ce qu'il veut, que ce soit au niveau international. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, quand on parle au niveau international, je pourquoi me contredira peut-être, mais c'est cette idée de ne jamais avoir de chaîne, de limite, ne pas être enchaîné par tout ce qui peut être accords multilatéraux, de tout ce qui peut être le deep state, mais même au niveau international. C'est-à-dire, c'est le rejet de tout accord, parce que pour Donald Trump aussi, ce qui est important, c'est le transactionnel.
Le deal, pour reprendre son livre.
Il pense qu'il a cette puissance par rapport à une personne qui peut arriver à faire ce qu'il veut. C'est beaucoup plus difficile dans le multinational.
Donc il a davantage des mains libres finalement qu'en 2016. L'effet surprise est passé. Clairement, il est le, ou en tout cas, il y a un grand favori avec Joe Biden.
On ne sait pas s'il écoutera les plans des gens qui travaillent pour lui. Il est tout à fait aussi capable de tenir.
Ça montre en tout cas qu'il y a une équipe qui est très rodée.
C'est des anciens de Trump, des anciens proches de Trump. En plus,
est-ce que face à ça, vous êtes étonné ? Je vais donner la parole à Pierre Bourgois qui veut aussi réagir. Jérôme Villal-Godefroy, est-ce que vous êtes étonné qu'il n'y ait pas davantage de résistance, de lobby d'influence face à la menace Trump ?
Alors, il y a quand même, en tout cas au niveau, aux États-Unis, il y a quand même la conscience de ça, notamment chez les démocrates. Et alors, effectivement, c'est pour aller sur des... La démocratie reste quelque chose d'important, mais on a d'autres thèmes qui peuvent effectivement faire la différence, comme l'avortement par exemple, parce que là, au niveau réel du quotidien de beaucoup d'Américains et surtout d'Américaines, là, il y a quelque chose de concret. Donc c'est là-dessus que va jouer le Parti démocrate notamment. Est-ce que ça sera suffisant ? Quelque chose qu'on va voir.
Pierre Bourgois.
Oui, alors ce qui me faisait réagir en fait, c'était, je pense qu'il y a deux plans. Il y a tout d'abord la vision de Trump en tant que tel. Alors je pense que même si Trump s'est radicalisé, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, sa vision en tant que telle n'a pas vraiment changé. Si on regarde par exemple ses déclarations vis-à-vis de l'OTAN, par exemple, il disait déjà en 2016 que l'OTAN était obsolète. Il a simplement radicalisé maintenant, en allant même jusqu'à affirmer, contrairement à l'article 5, qu'il n'irait pas jusqu'à la mutuelle assistance.
Il a dit qu'il quitterait l'OTAN, d'ailleurs.
Exactement. En fait, la ligne en tant que telle n'a pas vraiment changé. Il est toujours sur une ligne, comme vous l'avez dit, plutôt une logique de diplomatie transactionnelle, diplomatie du deal. Il est sur une vision qu'on appelle plutôt jacksonienne, donc d'à coup par des coups de force à l'international, sans volonté claire de promouvoir la démocratie, de s'engager à travers le monde. Et pour reprendre, c'était le second point, pour reprendre à ce que vous disiez, sur le monde en tant que tel, le monde a-t-il conscience en fait de Trump ? Je dirais en fait plus largement, le monde a-t-il conscience d'un déclin américain et d'un désengagement américain ? En fait, si on regarde vraiment, Poutine avait déjà finalement était déjà intervenu en Ukraine en 2014, il était intervenu en Géorgie à la fin des années 2008. Donc en fait, l'Iran était dans une logique claire de défier l'Occident par rapport au programme nucléaire. Donc en fait, on a déjà plusieurs signes qui montrent que les États-Unis n'arrivent plus à canaliser les ambitions des autres puissances. Donc je dirais que l'Europe, aujourd'hui, on voit que l'Europe essaie de réagir en parlant d'une défense européenne plus largement. Je dirais qu'en fait, au-delà de Trump, en fait, je me demande si le monde en fait, a conscience qu'on assiste peut-être en effet à la fin de l'ère d'hégémonie américaine. Et c'est plutôt ça, je pense, qu'il faut mettre en avant. Mais que Trump est l'archétype. Hein,
en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a moins de mobilisation anti-Trump parce que finalement, la menace, entre guillemets, elle est relative car les États-Unis ont moins de poids.
Non, alors, c'est pas une question de menace. C'est en fait, Trump incarne cette fin de l'ère hégémonique américaine. Trump, en fait, si vous regardez, Biden a poursuivi le retrait de Trump dans bien des domaines, hein, en fait. Alors, pas sur l'engagement de soutien vis-à-vis de l'Ukraine, mais on se rappelle très bien du désengagement en Afghanistan que Trump avait initié et que Biden a poursuivi. Donc, en fait, on est sur une logique quand même plus large de temps long qui, en fait, remonte même à la fin des années Bush, en fait. Sur un déclin plus net de l'hégémonie américaine, un refus des États-Unis de s'engager dans les affaires du monde de la même manière que le faisait Reagan ou les présidents précédents. Et donc, en fait, je dirais que si l'Europe doit se préparer, si le monde doit se préparer au retour de Trump, en fait, c'est plus largement, bien sûr, Trump, encore une fois, incarne ce désengagement, mais plus largement, est-ce que l'Europe et est-ce que le monde est prêt au désengagement américain ?
Michel Duclos.
Moi, je dirais les choses peut-être de façon plus concrète. C'est qu'il y a quand même un certain nombre de pays dans le monde qui n'ont pas très peur, qui n'ont pas peur du tout, ouais, du retour de Trump. Par exemple, les Indiens, ils ont pas mal vécu avec Trump. Ils savent que, de toute façon, la préoccupation majeure des Américains pour un certain temps, c'est la Chine. Donc, ils sont du bon côté du marteau, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a d'autres pays pour lesquels, de toute façon, les États-Unis, ce n'est pas aussi important que pour nous, ouais, Européens. Donc là où ça fait vraiment de la différence, c'est si vous êtes à Pékin, à Moscou, et en Europe, et au Proche-Orient. Donc ça pour moi, c'est les quatre points cardinaux qui, pour l'instant, effectivement, observent ce qui se passe aux États-Unis, avec parfois un peu de crainte, peut-être pour Poutine même, au contraire, beaucoup d'espoir. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir cas par cas, est-ce que les craintes et les espoirs ont des chances d'être confirmés ou démentis. Je pense par exemple que si Poutine s'imagine qu'il s'entendra facilement avec Trump sur l'Ukraine, il risque de se tromper, parce que pendant les 4 ans où Trump était à la Maison-Blanche, les Russes n'ont pas été capables d'exploiter l'inclination plutôt favorable à Moscou, qui était celle du président des États-Unis. Et là, c'est clair que Trump arrivera en proposant un deal, comme il dit, à Poutine sur l'Ukraine. Je n'exclus pas que Poutine en demande trop, quoi. Que même pour Trump, il peut se braquer. Donc, vous voyez, c'est quand même D'accord. pas un chemin complètement balisé qui va se passer, même sur ces quatre points cardinaux.
Ça ne va pas complètement rebattre les cartes si Trump est élu, c'est-à-dire dans le monde.
Puis pour l'Europe,
lui qui dit je conclue la guerre en Ukraine en 24 heures, il a dit. Oui. Je ne donne plus un centime dans cette guerre. Il a dit concernant aussi le Proche-Orient que. Enfin, ce n'est pas qu'il l'a dit, c'est qu'on sait que ça augure, en cas de réélection de Trump, d'un rapprochement à nouveau très fort avec Israël.
Oui, mais un rapprochement très fort avec Israël, je crois, il me semble, que la chose dont Trump est le plus fier, et d'ailleurs pas pour de mauvaises raisons, c'est ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'est-à-dire la réconciliation entre les Israéliens
et les pays arabes
et certaines capitales arabes. Pour ça, il aura aussi besoin des Arabes. Et je pense qu'effectivement, il abordera peut-être le sujet proche-oriental par ce biais-là, sans doute même. Mais là aussi, quand vous voulez faire un deal, il faut faire un deal avec toutes les parties concernées, si vous voulez. Et quant à l'Ukraine, c'est là où les Européens, je crois, doivent se préparer et ont un rôle très important à jouer, c'est qu'il faut qu'entre-temps, ce soit les Européens qui deviennent le principal ou les principaux soutiens à l'effort de guerre ukrainien. Et donc le temps, la période difficile où il cherchera un deal avec Poutine et où probablement il n'y arrivera pas, c'est là où les Européens doivent être présents.
Ouais, alors justement sur l'Ukraine, c'est vrai que c'est un enjeu très européen finalement, cette question d'un retour ou non de Donald Trump aux États-Unis. Comment est-ce que vous voyez, Jérôme Vial-Godefroy, ce souhait de l'OTAN qui récemment a annoncé vouloir créer un fonds de 100 milliards d'euros pour sanctuariser l'aide à l'Ukraine ? Est-ce qu'à travers ça, parce qu'évidemment l'idée c'est assurer sur le long terme l'aide à l'Ukraine, est-ce qu'il y a la possibilité finalement de se protéger d'un éventuel retour de Donald Trump au pouvoir et des risques de détricotage ?
Alors, c'est une tentative. Le Congrès lui-même aux États-Unis a voté une loi qui normalement rend quasiment impossible pour le président de, par lui-même, décider de se retirer de l'OTAN. Il faudrait qu'il passe par le Congrès. Seulement, avec Donald Trump, il peut faire fi de ça. Il est tout à fait capable de trouver un moyen de passer au-delà des limites de l'institution. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Donald Trump, il a pas vraiment une idéologie très très forte. C'est son intérêt avant tout. C'est comment il ressent les choses au niveau relationnel. Alors, il peut entendre certains de ses conseillers sur certains éléments. Il l'a fait beaucoup parce qu'il était très inexpérimenté dans son premier mandat, mais il n'est pas du tout sûr qu'il le fasse. Et alors, on voit, par exemple, là, avec Israël, il a quand même beaucoup critiqué Netanyahou. Ouais. Alors, on peut se demander pourquoi, parce qu'il a, ouais. il a une politique très pro-israélienne, notamment en raison des évangéliques américains qui sont blancs, qui sont très, enfin, qui ont une vision très apocalyptique de ouais. tout ça. Et, enfin voilà, donc on viendra peut-être là-dessus. Mais c'est que tout simplement parce que Netanyahou avait reconnu la victoire de Biden. Donc pour Donald Trump, ouais. c'était, ça l'a rendu absolument furieux. Ça tient parfois à très peu de choses en fait. Donc il va falloir voir. Poutine l'avait par exemple beaucoup complimenté. Il était très content de ça. Il a une admiration pour les hommes forts aussi. Et on peut faire un... Voilà, les choses peuvent changer très rapidement. Il est assez imprévisible sur certaines choses.
Le monde doit-il se préparer au retour de Donald Trump? La question qu'on pose ce soir, alors que le procès de Donald Trump s'est ouvert ce lundi à New York pour paiement dissimulé à une ancienne star de film X, c'est la première fois qu'un ancien président américain comparaît devant la justice pénale. Mes trois invités, Jérôme Vialagaud-Froy, que l'on vient d'entendre, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la politique américaine, Michel Duclos, ancien diplomate, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, et Pierre Brougois, qui est en ligne avec nous, à qui je vais donner à présent la parole, maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Je voudrais savoir maintenant si, finalement, en cas de réélection de Donald Trump, le monde, la communauté internationale, les Européens évidemment en tête, on a compris que c'est un enjeu majeur, peuvent se préparer pour répondre à votre question. Je vais citer Pierre Brougois, ce qu'a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, récemment sur CNN. Elle a dit « Si vous regardez ce qu'ont été ces années où Trump était président des États-Unis, il pourrait y avoir des menaces et il pourrait y avoir des problèmes auxquels les Européens devraient se préparer. Préparons-nous à d'éventuels droits de douane, à d'éventuelles décisions sévères qui seraient inattendues. Soyons forts chez nous. » Est-ce qu'on peut déjà anticiper une possible victoire de Trump, et de quelle manière?
Oui, alors c'est déjà ce que fait plus ou moins l'Union européenne. On le voit par les déclarations. On voit en effet même Emmanuel Macron qui parle justement régulièrement de la défense européenne. En fait, je vais revenir aussi sur ce qu'on disait, qui en fait est lié à cette question. C'est qu'en fait, quand on parle d'imprévisibilité, je pense que c'est clairement un des axes fondamentaux de la ligne idéologique de Trump. En fait, Trump se vante et se met en avant clairement cette dynamique imprévisible. Ouais. Et en fait, si l'Europe doit faire face à un retour de Trump, l'Europe en fait doit surtout faire face à cette ligne imprévisible. Parfois, certains ont mis en avant cette incertitude en permanence que fait peser Trump sur l'Union européenne, sur les questions de défense européenne et d'engagement américain via l'OTAN. En fait, si on regarde, d'une manière générale, c'est ce que Trump cultive en permanence. Récemment, lorsqu'il a annoncé justement que peut-être il pourrait en effet se désengager de l'OTAN, qu'il ne soutiendrait pas en cas d'agression les pays membres de l'OTAN, peu après, il a rétropédalé en affirmant ouais. justement que cette déclaration était uniquement pour faire réagir, pour mettre la pression sur les alliés européens. C'est exactement ce qu'il fait en fait depuis plusieurs années lorsqu'il attaque ce qu'il appelle les mauvais payeurs de l'OTAN, les mauvais payeurs de l'organisation. Donc il ne faut pas oublier qu'on est en période de campagne électorale, qu'il y a aussi des effets d'annonce, mais ça n'empêche pas le fait que, évidemment, derrière tout ça, il y a quand même clairement une volonté chez Trump de se désengager, d'agir, comme on le disait, via la diplomatie du deal. C'est-à-dire que si Trump a un intérêt à collaborer avec l'Europe, et il y a un intérêt pour lui clairement de collaborer avec l'Europe, puisque notamment en termes d'armement, les États-Unis vendent beaucoup d'armes d'assistance donc aux pays européens. Donc il y a un véritable intérêt, et que lui, en tant que président, il penserait, comme l'a dit mon collègue, il penserait donc en termes d'intérêt à collaborer. Donc l'Europe doit se préparer en effet à apporter des éléments à Trump pour lui forcer la main de collaborer avec l'Europe. Ouais. Et donc c'est plutôt ça la principale différence. C'est qu'avec Trump, justement, donc, l'Europe doit se préparer en fait, à quelqu'un d'imprévisible ouais. qui, du jour au lendemain, peut changer d'avis, qu'il faut séduire en permanence par des contacts personnels, l'attirer. En fait, c'est une stratégie pour attirer le président américain parce que lui-même ne le ferait pas, parce que son idéologie, en tout cas son cadre de pensée, ne l'amène pas naturellement à le faire.
Michel Duclos, peine perdue pour les Européens de se rapprocher de Donald Trump. On sait ce qu'ils pensent, les Européens.
Oui, mais c'est pas perdu, non, je crois pas, parce que, comme on vient de l'expliquer, dans la mesure où tout est transactionnel il faudra que sur un certain nombre de secteurs, on puisse se passer de lui. Et sur d'autres secteurs, on puisse procéder avec lui à ce qu'on appelle une négociation, donc un échange de bons procédés.
Un exemple, par exemple, puisque lui dit qu'il sortirait de l'OTAN. Donc mais évidemment, ça pose la question de la défense européenne, mais elle est encore très embryonnaire.
Mais non, mais il ne sortira pas de l'OTAN parce que là, vraiment, c'est que les États-Unis auraient beaucoup changé. Il faut voir ce que c'est que le Congrès des États-Unis.
Non, mais l'OTAN peut s'affaiblir. Il peut voilà, en tout cas donner moins de moyens.
Il retirera des troupes. Eh bien, les Européens s'organiseront pour remplacer les troupes. Et tout sera comme ça. Il voudra qu'on paye plus. Déjà, on a commencé à payer plus et on trouvera des habillages divers pour expliquer qu'on paye encore plus. Ce sera une négociation, finalement, de marchand de tapis extrêmement rude, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va se retirer de l'OTAN. Ce sera quand même plus compliqué que ça, je crois.
Donc le monde doit-il se préparer au retour de Donald Trump ? On peut répondre à cette question, Jérôme Viollet-Godefroy, en disant le monde peut se préparer au retour de Donald Trump par l'anticipation pour répondre à l'imprévisibilité de Donald Trump pour faire écho à ce que disait Pierre Bourgois.
Il faut, et de toute façon, on est obligé de considérer cette hypothèse, en tout cas, qu'il puisse être élu. Mais si on regarde un petit peu, effectivement, comme disait Pierre Bourgois tout à l'heure, le temps long, il y a quand même une tendance à une forme d'isolationnisme d'une partie des républicains, une partie des Américains. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de Trump, qu'est-ce qu'il va se passer ? Même s'il perd les élections, par exemple, en novembre, il y a quand même des choses, on voit au niveau du Congrès, des élus, qui a à peu près la moitié des élus qui ne veulent pas aider l'Ukraine, alors peuvent être plus intéressés par une aide à Israël, par exemple, mais on voit vraiment des grosses différences à l'intérieur du Sénat aussi, entre McConnell, par exemple, et puis quelqu'un comme J.D. Vance, qui est vraiment très trumpiste et qui, lui, ne veut pas du tout aider et pense qu'on aide trop l'Europe et que le vrai problème, c'est la Chine. Et en fait, déjà sous Obama, il y avait cette idée quand même que l'Europe s'était un petit peu passée et que maintenant, il fallait se focaliser sur la Chine. Donc, je pense qu'à moins qu'il y ait le sentiment que vraiment... faudrait vraiment que les Américains voient que leur intérêt national est vraiment en jeu avant qu'ils aient envie, en tout cas, que cette partie de la population soit prête à soutenir une aide à l'Europe, par exemple... pour une guerre éventuelle avec la Russie.
Dernière question subsidiaire, comment vous observez ces positionnements de la pop star Taylor Swift ? C'était la une de Libération ce week-end. Est-ce qu'elle peut faire perdre Trump ? C'est au cœur de notre débat, ça.
Alors là, j'ai pas trop de réponses.
Est-ce que la société civile, c'est que ça veut dire ? En tout cas, est-ce que c'est une artiste ?
Elle peut mobiliser des secteurs de l'opinion qui n'iraient pas voter naturellement et qu'elle peut peut-être...
Notamment chez les jeunes, effectivement. C'est un des problèmes, notamment par rapport à la position de Biden en Israël. C'est un des problèmes, puisque beaucoup de jeunes ont une vision quand même beaucoup plus en défense de Gaza et des Palestiniens, et donc beaucoup plus critique d'Israël. Donc, peut-être qu'effectivement...
Et donc, il y a une résistance qui est là, mais il y a aussi une réponse qui peut être mise en place, on a bien compris, en cas d'élection de Donald Trump. Merci beaucoup à vous trois, Jérôme Viollet-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la politique américaine. Michel Duclos, merci, ancien diplomate, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, votre livre Diplomatie française. Et merci à Pierre Bourgois, qui était en ligne avec nous, maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Merci à Florence Ponce, Arnaud Assoa à la préparation, Valentin Blanc à la réalisation. Allez, 19h, bientôt 59 minutes ici à Paris, juste après le journal de 20h. Notre entretien exceptionnel, Mahamat Déby, président de la transition au Tchad. Et puis 20h30, la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Au programme ce soir.
Eh bien, le Soudan, plus de 2 milliards d'euros d'aide pour ce pays ravagé par une guerre depuis un an. La conférence humanitaire réunie à Paris s'est donc engagée à mobiliser cette somme pour les populations civiles qui sont prises dans les taux de cette guerre. La première édition d'Afrique Soir sera largement consacrée à ce conflit. Puis dans l'actualité également, une saisie record dimanche de cocaïne dans l'est du Sénégal, à la frontière du Mali. Enfin, le Cameroun, avec la deuxième audience dans le procès de l'assassinat du journaliste animateur Marty Zogo, directeur d'Amplitude FM.
Eh bien, merci. On vous retrouve dans 30 minutes, Sylvie Berruet, pour la première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Restez à l'écoute.